bonjour tout le monde. Enfin, spectaculaire commence, 14h07 en ce mercredi 20 décembre 2017. Christophe Rollin au micro, émission numéro 150. Nous la tenons la 150e après la 100e qui était en juin de 2016, je crois. Là, nous sommes bien en 2017, bientôt en 2018. Je ne suis pas tout à fait seul au micro, certes Gérald n'est pas là, mais je suis très bien accompagné. Valentin, Chloé et Jérôme sont en face de moi, à l'affiche actuellement de cette pièce assez stupéfiante, Mon cœur si jeune, si fou, de Anya Ealing, qui est donnée au théâtre L'Élysée, sur une petite rue, la rue Basse-Combalot, dans le quartier de la Guillotière. C'est vraiment mais à 30 pas de la station de métro Guillotière. Et pourquoi est-ce que je vous l'indique? Eh bien, parce qu'il faut s'y rendre. Voilà, il faut s'y rendre, il faut prendre notamment le métro, ou bien il y a une station vélo, je crois, qui est à côté aussi. Enfin bref, tous les chemins mènent à l'Élysée. Il faut s'y rendre jusqu'à ce vendredi 22 décembre, parce que cette pièce est absolument sidérante. Voilà, je n'en dis pas davantage, je laisse Philippe Catherine parler, enfin chanter, et puis aussi ensuite Valentin, le metteur en scène, et puis comédien également, comme Chloé et Jérôme. Je les laisserai parler de cette pièce jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Nous allons commencer avec un titre dans l'album Robot après tout de Philippe Catherine, Être humain. Pourquoi ça? Parce que cette pièce, elle est quand même formidablement humaine. Vous nous écoutez sur Radio Canu, c'est le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous le faites sur radiocanu.org, et quoi qu'il en soit, vous faites bien. Je crois cet être humain qui respire à mes côtés. Voilà, c'est ce titre de Philippe Catherine qui ouvre l'album Robot après tout. Qui sont ces êtres humains qui respirent à mes côtés? J'ai lancé leur prénom à l'instant. Il s'agit de Valentin. Et il y a aussi Jérôme et même Chloé. Donc ce que je vais faire, c'est m'arrêter de parler. Et puis je vais les laisser parler eux-mêmes pour présenter tout d'abord les comédiens, les jeunes comédiens talentueux qu'ils sont, avant que nous parlions plus précisément de cette pièce. Je n'ai pas indiqué l'horaire, hein. C'est à 19h30, c'est donné donc tous les soirs à partir de... ça a recommencé hier soir, il y a eu une première série la semaine dernière. Il s'agit bien de cette pièce de Anya Ealing, 2005 je crois, Mon cœur si jeune si fou, au théâtre L'Élysée, 7e arrondissement je crois, enfin du moins c'est limitrophe du 3e, c'est voilà, station Guillotière, vous y serez, et ça dure une heure et demie plus ou moins, c'est à 19h30, c'est bien cet horaire. Valentin, Chloé, Jérôme, j'ai terminé. C'est à vous de tout d'abord vous présenter avant de parler plus précisément de cette pièce qui, Il y a encore d'autres personnages qu'on peut évoquer, hein. Paola Rimar, Karine Schüttler. Schlüter encore. J'y arrive pas. Valentin, vous? Oui, tout d'abord premier.
Oui,
pour la parole, qui est metteur en scène pour cette pièce aussi.
Voilà, moi je suis metteur en scène et comédien dans la pièce. Alors, pour me présenter, je suis metteur en scène et comédien. Voilà, dans la vie. Je viens de Nantes. Cette pièce, cette équipe, à la base vient de Nantes. On s'est tous rencontrés justement au conservatoire de Nantes. Moi, ça a été ma formation. Après, chacun est parti un peu partout. Et quand j'ai voulu monter cette pièce, du coup, j'ai rappelé justement des gens que je voyais encore de toute manière, mais avec qui je travaillais plus beaucoup, puisque tout le monde était un peu éparpillé aux quatre coins de la France. Donc,
certains étaient même à Lyon, hein, je crois, c'est ça.
Certains étaient à Lyon, oui, justement.
On verra avec Chloé dans quelques instants.
Voilà. et donc voilà, en fait, moi, sinon, je fais ça à Nantes d'habitude. Et là, je suis très très content d'être venu à Lyon, justement, et d'avoir pu retravailler avec ces gens que j'ai connus. Il y a presque 10 ans maintenant.
Il y a presque 10 ans.
Ouais. Il y a 10 ans. Et nous, il y a 10 ans.
Non.
Je crois que 2008.
Vous, c'est.
Ouais, 2008.
Ouais, 2008.
Jérôme apporte un peu de nuance. Attention à Valentin, c'est vrai, je ne l'ai pas tout à fait dit tantôt hors antenne, mais la question, d'ailleurs, soyez prêts aussi, Jérôme et Chloé, la question, normalement, est aussi un peu comme une question obélix, je pourrais peut-être l'appeler comme ça, cette question-là, c'est comment êtes-vous tombé dedans? Non pas donc dans la marmite de la potion magique, mais dans cette marmite du théâtre. Généralement, c'est un tout petit instant, très court, un peu psychanalytique éventuellement, mais remonté dans la petite enfance. Comment votre goût pour le théâtre s'est-il déclaré? Puis ensuite, nous verrons avec Chloé et Jérôme, et puis nous écouterons, je crois que je l'ai trouvé, It's All Over Now, qui sera une chanson de ce spectacle.
Oui.
Bon. Donc, ça s'est passé comment? Alors, à quel âge? 3 ans, 4 ans?
Pas si longtemps, mais on va quand même remonter un peu dans l'enfance. Je dirais 7 ou 8 ans, je pense. En fait, j'ai tout simplement commencé à faire du théâtre parce que j'avais des amis qui en faisaient. J'avais envie d'être avec eux, de faire une activité avec eux. En fait, au départ, ça a juste commencé comme ça, on va dire. Et ça m'a plu, donc j'ai continué. J'ai continué à faire des
ouais,
ateliers, des choses comme ça.
C'était quand au collège, lycée?
Non, j'avais 7-8 ans. Donc,
ah ouais, d'accord. Ah oui, CE1, CE2, voilà. Ouais, d'accord. Très très jeune.
Mais là, c'était juste des ateliers que j'ai continué à faire un peu partout, au collège aussi. Ensuite au lycée, je faisais aussi l'atelier atelier théâtre. Et en fait, même jusqu'à la fac, puisque j'ai fait une fac de lettres parcours théâtre à Nantes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vraiment je suis tombé dedans. C'est-à-dire que même si avant c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est à ce moment-là que, je sais pas, à un moment j'en ai eu marre d'aller en cours et je préférais juste le parcours théâtre. Et je me suis rendu compte que, en fait, il était peut-être temps d'essayer de rentrer au conservatoire et d'en faire ma vie et c'est ce que je fais. Voilà.
Allez-y, Jérôme, Chloé, intervenez un peu. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat comme situation.
La présentation.
Voilà, Gérald et moi, on est au micro. Ça fait la 150e Imagine Auditeur depuis 2013. Hein, je crois que c'était au mois de mai ou fin avril la première. Donc ça commence à faire quelques années également. Donc, toujours pareil, toujours facile pour moi de blabla, de faire un peu de discours. Mais quand je vous demande à vous inviter, comment cela s'est-il créé? Pareil, hein, pour vous, Chloé, Jérôme, cette rencontre avec le théâtre, cette petite enfance ou plus tardivement, 15 ans, 20 ans.
Mais en fait, en vous entendant poser cette question, en entendant Valentin, je me suis dit qu'en fait, la première fois que j'ai eu envie de faire du théâtre, j'ai découvert la série Buffy contre les vampires. Non, mais c'est vrai.
Des choses inavouables se disent. Attention, c'est enregistré. Hein,
c'est totalement inavouable.
Moi, je suis fan.
Moi, je soutiens.
Ah, si, Sarah, Michel Gellar.
Sarah Michel Gellar. Ouais, et en fait, je trouvais les acteurs. Enfin, ça a été vraiment ma série d'adolescence, quoi. Et je trouvais les acteurs super, super bons. C'était super drôle, super bien joué avec les vampires, les monstres et tout, les métaphores de l'adolescence. Et en fait, j'ai quelques mois après, je crois, à 15 ans, du coup, sur ma 15e année, j'ai fait mon premier atelier de théâtre. Et les premiers textes que j'ai travaillés, c'était des textes classiques avec une vieille dame. Donc c'était, je faisais pas du tout Buffy contre les vampires dans mon cours de théâtre. Mais c'était vraiment ce moment-là, je m'en souviens bien. Cette année-là, quoi, donc au lycée. Voilà.
Bien répondu. À vous, Chloé.
Et moi, alors, ça remonte aussi à l'enfance. Mes parents, donc on habitait dans un petit village, le Plessis-Massé, en Anjou, j'ai grandi. Et donc, dans ce petit village du Plessis-Massé, mes parents participaient à l'amicale loisirs. Et donc, il y avait chaque Noël, et c'est la saison approche, enfin, on est en plein dedans, le spectacle des adultes pour les enfants. Et moi, j'arrêtais pas de regarder ça en me disant, mais c'est pas possible que les enfants ils fassent pas un spectacle pour les adultes et tout. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de monter sur scène et tout. Ça me démangeait en fait de l'intérieur. Donc voilà. Et j'ai réussi un jour à y aller et à faire un numéro de clown. Et ça a été une franche marade, en tout cas pour moi intérieurement. Et suite à ça, après, j'ai eu envie de remonter sur les planches et ça s'est fait petit à petit, quoi. Mais voilà, j'ai fait un lycée option théâtre à Angers et puis je devais partir en prépa littéraire à Paris, chose que je n'ai pas faite pour être sur les bancs de la fac et pouvoir à loisir aller au conservatoire de Nantes. Et voilà, et c'est là où on s'est rencontrés tous, toute cette équipe. Du spectacle Mon cœur si jeune si fou.
On peut les nommer les autres. Catel, Denis, donc vous Jérôme Denis. Denis, vous êtes présent, Denis, Chloé Giraud, vous êtes également là, Marion Solange, Malenfant, Benoît Martin, que nous évoquions tout à l'heure, qui est donc en rêve, enfin, alors je vous crois volontiers, qui a incarné Don Juan la scène du théâtre du Point du Jour. Il a de cela 3 ans avec vous Chloé, qui est donc, vous êtes un peu tous les deux vous avez été locaux pendant quelques temps, vous avez été lyonnais pendant quelques années avec Gonel Morin. L'êtes-vous encore? Vous jouez encore avec Gonel Morin?
Moi je joue pas en ce moment avec lui, mais disons que oui, le désir est là de retravailler ensemble un jour. Mais en tout cas, l'aventure des Molières pour l'instant c'est terminé quoi. Mais il y aura peut-être d'autres choses à venir.
Et vous, Valentin Nolin, vous bouclez cette programmation, ce casting, cette distribution excellente, hein, des jeunes talents, tous nantais alors. Mince, moi je pensais qu'il y avait un peu de Lyonnais là-dedans.
Non, pas tous nantais.
Non, mais disons, ou Angevin.
Non, mais en fait, on vient tous à la base de. Même moi, je suis pas originaire de Nantes. Non, j'ai grandi en Vendée. Disons.
Voilà, Vendéen.
Et on est tous passés par Nantes en fait à un moment, mais effectivement, il y a Benoît et Chloé qui sont deux Lyonnais. Jérôme qui maintenant est en Suisse.
Après avoir fait la France, oui, ça c'est un autre sujet.
Bon, okay, entre la Suisse et la France, mais qui est parti en tout cas de Nantes pour aller faire une formation en Suisse.
Oui, c'est ça. Mon école en Suisse, la Manufacture. Mais on aime beaucoup Lyon, hein.
On vient même. Ah, mais attention, on aime beaucoup Lyon. Oui.
Écoutez, Lyon vous aime beaucoup également. Et puis de toute façon, tout ce que nous disons, c'est du passé, n'en parlons plus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce serait plus ou moins une traduction de It's All Over Now, Baby Blue, c'est ça?
Oui.
Je l'ai trouvé ce titre du groupe Them. Il y a un autre nom qui est donné, Van Morrison. C'est
oui.
Bon, donc nous sommes prêts à écouter cette musique qui va pouvoir introduire la pièce. Mon cœur, si jeune, si fou. Anya Ealing, une pièce 2005, 2006, je ne sais plus,
2004, je crois.
2004 peut-être, qui est donnée actuellement au Théâtre L'Élysée, 19h30. Ça a repris hier le mardi 19 décembre, c'est donné jusqu'à ce vendredi 22. Et je crois qu'à part donner vraiment l'adresse très précise de l'Élysée,
14 rue Bascombalo.
Ah bah voilà. Je n'ai plus vraiment d'autres choses à ajouter. Donc nous écoutons ce titre que je n'ai pas préparé. Hein. Moi j'avais préparé plutôt le Heart of Glass. Je trouve que c'était très bien. Mais bon, ça va être parfait aussi. Auditeur, 14h20, Radio Canu. Pause musicale avant d'attaquer le gros morceau qui est cette pièce de Anya Ealing qui est vraiment, vraiment, enfin moi je ne sais pas, je dis sidérant, mais les comédiens en parleront bien mieux que moi.
Look out, baby, the saints are coming through.
La situation peut-être auditeur est un peu particulière, donc il faudrait l'évoquer. Pourquoi écoutons-nous deux fois de suite? Ouais, mais il me semble qu'il y avait peut-être une variante Chloé là. Je crois que c'est pas la même version sur YouTube. Auditeur, nous vous devons un petit peu des éclaircissements, des précisions. En ce moment même, cette émission radio est filmée. Oui, comment ça, de la radio filmée? On se croirait sur BFM TV ou autre chose. Non, pas du tout. C'est filmé parce que il s'est produit des choses la semaine dernière, et je vais quitter tout à fait ce sourire et cette attitude un peu ironique et sarcastique, puisqu'il n'y a absolument rien de drôle. Un petit rappel des faits. Donc, nous avons reçu cette information en Radio Canu. D'abord, samedi dernier, vers 23h, deux individus ont attaqué la radio lors de l'émission Berbère sans frontières et ont jeté des fumigènes dans la radio et des menaces de mort du type « La prochaine fois qu'on revient, ce ne sera pas pour vous tuer, mais pour vous égorger » ont été proférés à deux reprises par téléphone dans les minutes qui ont suivi. Rien ne permet de savoir précisément à ce stade s'il s'agit d'une énième attaque d'antifascistes contre la radio en plein week-end antifasciste, ou bien si c'est l'émission Berbère sans frontières qui était directement visée de par ses prises de position dans les luttes kabyles. Par ailleurs, les restes de grenades qui avaient été récupérés après l'attaque ont mystérieusement disparu, semble-t-il, dans la nuit ou la matinée qui a suivi. Suite à cette réunion, une réunion ensuite s'est tenue à Radio Canu. Il a été décidé collectivement de porter plainte contre X de façon conjointe de la part de la radio. Il y a la présidente et puis aussi de la part de l'animateur présent lors de l'attaque, Ali. Ensuite, un communiqué de presse qui a été envoyé dans la foulée à toute une série de médias locaux et nationaux, mainstream ou bien des médias amis, afin de rendre publique cette attaque aussi grave qu'inquiétante. Le communiqué a par ailleurs été mis en une sur le site. Donc, auditeurs, je vous renvoie comme d'habitude au blog de Spectaculaire, mais allez voir aussi le site de Radio Canu, radiocanu.org tout simplement. Et puis voilà. Donc c'est la raison pour laquelle l'émission a peut-être été un peu perturbé pour cette première demi-heure, mais à présent, 14h28, nous allons nous consacrer non plus à Valentin, à Jérôme ainsi qu'à Chloé qui sont présents, mais plutôt, on va entendre, ça va être assez étrange, vous allez voir, on va entendre donc Christophe Lapin, on va également entendre Paola Rimar, et puis aussi on pourra même entendre Eugène Tender. Qui sont ces gens-là? Bien, c'est ça que j'ai trouvé absolument fabuleux dans cette pièce, c'est que c'est une pièce humaine qui montre donc, l'affiche était très bien faite, c'est dans un immeuble, des voisins qui sont tous concernés par une situation, c'est donc cette fameuse Karine, je vais réussir cette fois-ci, Karine Schlöter qui déclenche tout. Je n'en dis pas plus. Valentin qui est metteur en scène et qui incarnait donc Christophe, le facteur, ou bien Chloé qui est donc Paola Rimar, ou enfin vous Jérôme qui êtes Eugène Tender, le concierge, personne d'importance. Que dire de cette pièce de Anya Ealing qui est saisissante, prodigieuse, vraiment, et puis la mise en scène aussi, enfin les choses tiennent très bien. Chloé, c'est à vous, Paola Rimar donc.
Oui, et ben en fait j'ai l'impression que ce qui pourrait être intéressant, ce serait de se redire que c'est une journée. Cette pièce, c'est une journée dans un immeuble, et que donc chacune des figures qui habitent ou qui passent dans cet immeuble se croise. Et donc la trame est ainsi faite de croisements successifs et de loupés, de ratés, beaucoup de loupés. Et donc les gens ne se rencontrent pas vraiment. Et donc il y a un facteur interprété par Valentin.
Ils se rencontrent un petit peu.
Oui, mais ils se rencontrent jamais.
Ils se croisent plus qu'ils ne se rencontrent.
Ne se parle pas vraiment, c'est vrai, voilà.
La forme aussi d'écriture pour laquelle Anya Ealing a opté, c'est le monologue en fait, qui est un monologue intérieur. Donc en fait on entend la voix intérieure de chacun de ces personnages, et chaque chapitre porte le nom d'une des figures de la journée en fait. Donc voilà. Et il y a des missions. Chacun a un peu une mission dans cette journée. Et la mission du facteur, par exemple, de Valentin, c'est de livrer un colis.
C'est livrer un colis alors que la personne à qui il est destiné ne répond pas chez lui. Voilà, c'est tout simplement la mission de Paula, par exemple. incarné par par Chloé, c'est de descendre ses poubelles.
Je m'apprêtais à le dire, mais je me demandais si c'était vraiment la mission. Si, c'est bien, c'est descendre les poubelles.
Descendre les poubelles sans croiser le, enfin en essayant de croiser le moins de monde possible, parce qu'il y a du mutisme dans l'air et que c'est difficile de prononcer des mots, quoi.
Finalement, c'est là aussi on s'aperçoit que en fait ces missions sont relativement simples à la base pour chacun. Mais c'est pas si compliqué en fait une fois qu'on est dans leur tête et qu'on s'aperçoit que des fois la chose la plus simple peut prendre aussi des proportions assez énormes.
Et en fait ils sont tous empêchés par quelque chose. Enfin j'ai la sensation que, et c'est ça qui est assez joli dans l'écriture aussi, c'est que chaque personnage est vraiment de base empêché. Donc le mutisme pour Polarimar,
pour Christine, c'est ça la figure de Christine pour Eugène.
Karine Schlotter.
Figure de Christine pour Eugène Tender.
Pour Eugène, oui, bien sûr.
C'est étrange. Et puis le Max qui n'est d'ailleurs pas présent et qui
oui, voilà. Fait. Oui, le fait de parler, le fait de parler à des gens qui ne sont pas là pour Eugène, pour le facteur, c'est livrer un colis malgré le cœur qui palpite et une crise cardiaque qui est sous-tendue.
J'ai l'impression que c'est aussi vraiment passé au microscope toute la journée et tous les rituels que font tous ces personnages dans leur journée, au quotidien. C'est vraiment pénétrer le quotidien de chaque personnage. Et du coup, d'une mission un peu simple de descendre ses poubelles ou de réparer une fuite d'eau pour mon personnage, on va avoir accès à vraiment tout ce qui se disent dans leur tête dès qu'ils se croisent entre eux. C'est vraiment un zoom sur leur quotidien, quoi.
Mais le quotidien qui devient exceptionnel en plus. Enfin, c'est ça en fait ce que je trouve assez fou.
Cette journée aussi, c'est une journée qui est particulière au final, puisque, enfin, de toute façon, comme vous l'avez dit, on rentre dans l'histoire par Karine Schlotter.
Et puis c'est une tragédie. Voilà, il y aura un mort à la fin. On n'en dit pas plus. Voilà. On n'en dit pas plus.
Mais ce qu'on peut dire, si, c'est qu'on rentre effectivement dans l'histoire par Karine Schlotter dès le premier chapitre.
Qui veut mourir d'ailleurs.
Il
aurait dû y avoir une morte et c'est un mort.
Dès le début.
Vous en dites trop, Chloé. Quoique non.
Faut pas en dire trop.
Il faut donner envie. Il faut donner envie aux auditeurs.
Mais en tout cas, voilà, c'est par exemple la mission de
Karine. Il y a des morts.
La mission de Karine Schlotter, c'est de réussir à se suicider.
Oui, donc j'en dis pas trop.
Oui,
elle est empêchée aussi. Oui, elle est empêchée
est empêchée parce que tout le monde arrive chez elle.
Et puis elle souhaite voir Miroslav et ça se passe d'ailleurs mal quand Miroslav vient et elle n'est pas disposée à le recevoir.
Voilà.
Oui, ça semble assez fin. Cette remarque, Chloé, sur chaque personnage est empêché. Chaque personnage a également une histoire. Il y a donc pour Karl Sabelman,
Yann Casimir,
Yann Casimir Sabelman. Il y a une histoire pas possible avec de l'Australie. Et d'ailleurs, enfin, peut-être question éventuellement serait-ce gênant. Est-ce que vous avez employé ce terme il y a de la fantaisie, mais moi, ce que j'ai trouvé absolument, enfin, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réel,
oui.
beaucoup d'humain. Mais est-ce que c'est vraiment ou en fait Anya Ealing, quand même, elle a écrit ce texte avec beaucoup elle-même de fantaisie, étant très fantasque, peut-être. Enfin, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est du vrai réel ou ouah, non, c'est exagéré.
Le réel est fantasque parfois. On va dire ça. Moi, je le trouve effectivement très, très humain, très réel, ce texte, et y compris dans ses aspects fantasques. Je ne sais pas exactement en plus ce qu'on peut mettre vraiment derrière fantasque.
Bah, moi, je pensais.
La fantaisie qui peut y
voilà,
avoir.
Voilà, les passages de comédie musicale, plus ou moins, ils se mettent tous à danser, ou alors à la fin, une grande scène émétique, une grande scène où tout le monde se met à vomir. Enfin, il y a différentes choses qui semblent.
Mais j'ai la sensation que c'est lié aussi, encore une fois, au monologue intérieur. Et le fait que l'intériorité, en fait, il se passe des choses dans nos crânes et dans nos cerveaux qui sont des fois bien au-delà de ce qu'on vit concrètement, là, moi, face à ce micro. En fait, dans ma tête, mon monde est beaucoup plus développé, beaucoup plus fou que la vie que je mène, en fait. Et donc j'ai la sensation qu'Anya Ealing, elle écrit aussi ça. Elle décrit, par exemple, vous l'avez dit, la citation de Karine Schlotter qui dit qu'elle entend à un moment donné
les
vers dans le bois. C'est des choses qui sont pas réelles, en fait, enfin qui sont du coup multipliées, enfin comment dire, grossies par zoomées, en fait. Je pense que le mot zoom, il est juste, en effet.
Merci, Chloé.
Non, mais et Anya Ealing, elle s'attache, je pense, à grossir comme ça des images qui sont peut-être. Elle agrandit des images, voilà.
Exactement. Mais ça part toujours du réel, effectivement.
Et ça devient fantasque.
C'est ça.
ce texte, moi je l'ai sous les yeux, il faut le lire aussi, auditeur, il se trouve édition théâtrale, il faut en parler. Merci beaucoup édition théâtrale qui ont pu me permettre de l'avoir à disposition. Comment qualifier cette écriture des vers libres ? Enfin, du moins, c'est très étrange, ça, non ?
Oui, étrange. Je ne sais pas à quel point c'est, dans la forme, si étrange que ça.
Il y a, c'est retour systématique à la ligne.
Effectivement, c'est presque du vers libre.
Mais il y a des retours à la ligne, comme il y a tout le temps des retours en arrière et même des retours en avant. Enfin, le temps est troué dans le texte. Et je trouve que le fait qu'il y ait à la fois des allers-retours entre le réel, la pensée imaginaire des personnages, ce qu'ils s'imaginent, ce qu'ils voient vraiment, des retours des flashbacks et des flash-forwards, c'est ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça.
Ça correspond vraiment à la façon dont elle écrit. C'est clair que c'est hyper particulier, quoi.
C'est ce qui est assez particulier, effectivement, dans ces vers libres, c'est qu'en plus, des fois, le simple fait d'avoir mis un alinéa, de revenir à la ligne, en plein milieu d'une phrase, va donner tout d'un coup un sens. Pas forcément autre, mais en tout cas un sens en plus. Moi j'ai l'impression qu'elle se sert beaucoup de ça pour créer des fois des bizarreries finalement dans le texte et ouvrir des fois des sens. Comme tu le dis Jérôme, ça participe aussi sur ces questions de flashback, de flash-forward. Je sais que moi, à la lecture du texte les premières fois, et on a fait tout ce travail-là pas mal ensemble, on a vraiment dû enquêter sur... mais là, à ce moment-là, il parle de quoi, qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, il y a plein de moments comme ça dans la structure même du texte où c'est volontairement flou, finalement.
Je ne l'avais pas constaté, en fait. Il y a des points... Je n'avais pas vu, je pensais que c'était des...
Il y a souvent des points,
en poésie, je crois. Un rejet ou bien enjambement, non, il y a des points. Là, par exemple, je suis début, Madame Schlotter. Donc, d'ailleurs, c'est curieux, dans la distribution à laquelle elle est appelée Madame Schlotter, alors que son prénom, elle se dit bien Karine Schlotter. Moi, c'est Karine Schlotter, point. Ça ne se clame pas dans les grottes, point. Ou peut-être que si, point. Karine Schlotter, point. Qu'est-ce qu'elle peut bien répondre à la grotte, point. À part Eugène Tender et encore, point. Et voilà. Mais.
Et des fois, il n'y a pas de point.
Et des fois, il n'y en a pas.
Mais écoutez, moi, là où je suis, je ne vois que des points, je ne vois pas de virgule.
Et il y a aussi parfois des retours à la ligne sans majuscule et des retours à la ligne avec majuscule.
Alors là, question là, peut-être aux comédiens et puis aux metteurs en scène, comment ça se travaille ? Donc vous avez fait ce qu'on appelait une italienne, c'est ça ? Ou c'est quoi, une allemande, où on lit le texte comme ça au tout début ?
Une italienne.
Une italienne, et ça a marché tout de suite pour les comédiens, pour vous aussi ?
Ah non,
non, je veux dire, ça a marché, vous avez... Il y a un truc qui se passait ?
Moi je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Après, le travail, ça a été beaucoup de...
Vous avez dit, qu'est-ce qu'il se dit à tel passage, c'est ça par exemple, vous l'avez
déjà
fait assez régulièrement.
Et aussi, même par rapport à ces retours à la ligne, finalement, on les prend pas tout le temps en charge, en fait. Y a des fois où on lit les phrases alors qu'il y a un point, quand même. Tout simplement pour des questions de compréhension aussi, parce que y a un moment, justement, dans tous ces sens ouverts, dans tous ces points comme ça qui reviennent régulièrement, il fallait qu'on fasse des choix pour pouvoir prendre en charge ce texte. Et du coup, il y a des fois, on a vraiment défini des moments où on respecte vraiment ça pour ouvrir. Et des fois, où, au contraire, on s'est dit non, ne prenons pas ça parce que tout simplement, on ne comprenait plus.
Alors attention, auditeurs, ça marche. Hein, faudrait pas non plus que vous ayez un peu peur de quoi est-il question ? Moi, c'est la boutade que j'ai voulu faire tout à l'heure à Valentin. On remarque pas à l'écoute quand on voit la pièce, on ne remarque pas que c'est écrit avec donc ces sortes de vers, avec ces points ou ponctuation, enfin du moins ou retour à la ligne ou n'importe. On ne le remarque pas parce que tout s'enchaîne et c'est quand même très important. Enfin, le texte marche et on comprend bien que ces personnes qui vous le disiez, Chloé, qui ont donc ces monologues. Monologue donc à voix haute, c'est là où peut-être on est bien dans du théâtre, on n'est pas dans une réalité, mais côté cette réalité, c'était intéressant ça, Chloé. Là, par exemple, à quoi pensez-vous en ce moment ? Oui, le micro est ouvert. Pensez à voix haute.
Non, mais ça réveille plein de choses en fait là, en vous entendant parler. Je me dis que peut-être qu'Annie Eiling aussi, elle a écrit la pensée fragmentée en fait, et que le point, c'est une manière de dire que la pensée n'est jamais unique. Elle n'est pas unilatérale en fait. Elle part dans toutes les directions, et que du coup, un mot des fois suffit à ouvrir une direction et on met un point pour aller dans une autre. Et peut-être que c'est un peu ça, l'écriture et la traduction qu'en a fait Henri Christophe. C'est peut-être justement ces sauts successifs de la pensée qui nous amènent à faire un début de phrase qui ne se termine pas. Enfin, vous voyez, oui, quand on pense en direct,
on
n'arrête pas de.
Il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont pas finies.
On n'arrête pas de. Voilà. Et donc, et on zappe entre le passé, le présent, oui. Le futur. Le rythme de l'émission que vous nous proposez d'ailleurs, passé, présent, futur. mais, et donc, j'ai l'impression que c'est du zapping et du zoom. Et donc, mettre des points, ça permet de passer toujours à d'autres choses et de se dire que. En fait, elle met en même temps, en faisant ça, elle nivelle, c'est-à-dire que c'est aux acteurs de faire les choix. Et ça, c'est assez précieux aussi, c'est que nous, face à ça, on est dans une nécessité de prendre des décisions, en fait, face à cette écriture-là. De se dire, d'accord, moi, je décide de mettre un point là, parce que moi, je ferme le sens pour pouvoir le transmettre. C'est important que je puisse le fermer à un endroit donné. Donc, je mets un point ici, ça me permet de fermer et de passer à autre chose. Mais si je décide que tout est virgule, pendant un long temps, eh ben, ça devient que de la virgule et ma pensée se file. Mais... voilà, enfin c'est la responsabilité de l'acteur davantage, oui. Je trouve que les choix ont plus été faits par les acteurs que par le travail.
Oui. Le metteur en scène n'est pas tyrannique et autoritaire.
Il ne l'est pas du tout.
Valentin, ça peut aller. Oui. C'est un texte aussi, j'étais en train de me dire, qui est également riche de ce qu'il ne dit pas et qu'il faut pourtant comprendre un peu. Et il y a toute une histoire de Paola. Moi, j'avoue, je suis ravi d'avoir pu échanger quelques mots avec vous, Valentin, après la pièce. Je n'avais pas tout à fait saisi cette histoire d'agression. On ne va pas en dire davantage qu'elle a vécu. De la même manière, je revoyais votre vidéo parce que, auditeurs, des petites vidéos existent qui sont intéressantes. Elles ne sont nullement la pièce. Allez bien voir cette pièce. Hein. N'estimez pas que les vidéos sont suffisantes, mais la vidéo de Eugène Tender est très bonne. Le texte aussi est très bien. Il faut donc bien aller voir Jérôme sur scène. Il y a une complexité aussi parce que c'est pas très net. On comprend que son orientation sexuelle aurait changé parce qu'il y a une femme qui aurait été dans sa vie, puis à ce moment-là, c'est plus une femme. Il en parlait au début de ce personnage, qu'il présentait à cette fameuse Karine. Je vais donner que son prénom, comme ça, ça ira très bien. Christine ? Non, Karine. Il parle à Karine,
ah oui,
de son amie, Karine Schlotter.
Il y a une Karine, il y a une Christine.
À Karine, il parle de cette amie, il le nomme, je ne vais pas le nommer, je fais exprès. Et ensuite, on se rend compte que cette amie est un peu plus qu'un ami, donc ce texte est vraiment à la toute fin aussi. Il y a donc un ultime monologue pour terminer de la part de Karine qui donc fait comprendre des éléments qui sont arrivés à Valentin, oui, vous, enfin du moins un facteur, enfin bref, c'est également un texte qui est riche de choses, enfin du moins il y a des choses qui ne sont pas dites, enfin c'est...
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, on parlait, par exemple si on reprend...
Eugène
Tender,
le concierge, incarné par Jérôme.
Le concierge incarné par Jérôme. Effectivement, on a parlé de Christine, de la figure de Christine à qui il s'adresse beaucoup.
Il y a une photo.
Et on sait, oui, c'est une
et
photo.
Quelle photo ?
C'est une très belle photo.
Il faut venir voir la photo.
Il faut venir voir la photo.
En fait,
et puis, on vous dira après qui est sur la photo en vrai. Voilà, mais par exemple cette Christine s'est dit à aucun moment dans le texte exactement qui c'est et quel est son rapport avec Eugène Tender.
Alors j'ai peut-être surinterprété, j'ai cru comprendre quelque chose, mais c'est vrai, oui.
Nous aussi.
Ah ben, alors Eugène, vous, bah, oui.
En fait, on comprend des choses, mais ce n'est jamais dit.
C'est jamais 14 dit. Années, 14 après, années, c'est pas mal tout de même.
Après,
on sent qu'il y a eu concubinage.
Oui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé.
On ne sait absolument pas s'il s'invente cette femme, même s'il dit 14 années, tu vois, c'est là où c'est
bien
drôle.
Sûr.
C'est qu'on ne sait absolument pas s'il parle à une photo de magazine, à une femme qui existe ou pas, et ce fameux Max dont on... Enfin, on ne sait absolument pas ce qu'il vit. Donc en fait, c'est comme chaque personnage, encore une fois, dans cette pièce, tout au long de ce texte, décrit la journée qu'il vit en fonction des personnages qu'il croise et que chaque personnage à tour de rôle fait la même chose, on voit jamais la même chose et de chapitre en chapitre, on ne comprend jamais la même chose, on creuse davantage le sens et surtout leur relation entre eux. Par exemple, moi, dans mon chapitre, je croise plusieurs personnages, mais notamment Karine Schlotter. Et ce que Eugène Tender dit, voix de Karine Schlotter, n'est pas absolument pas la même chose que ce que Karine Schlotter voit d'Eugène Tender dans son premier chapitre à elle. Enfin, c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est
là où on commençait tout à l'heure en disant qu'ils se rencontrent jamais vraiment, en fait.
Oui.
On connaît ça. C'est le cinéma film japonais des années 50-60. Rashomon, je crois, c'est ça. Enfin, du moins, je veux dire, des points de vue différents sur les mêmes moments.
Oui.
Et c'est très bien, effectivement, que vous le disiez, Eugène, Jérôme. C'est, donc, c'est très rapide. Hein, la première, premier monologue de Karine, elle parle, vous intervenez, et puis ensuite, ce monologue, enfin, du moins, cette même scène est vue de votre point de vue.
Exactement.
Et,
oui, oui.
Et c'est vrai que vous, c'est bien de vous y indiquer aussi. Il y a un enrichissement qui se fait au fur et à mesure. Il y a des éléments qu'on apprend, comme un puzzle. D'ailleurs, il y a un puzzle qui est dans cette pièce.
Oui, oui.
Donc, comme
cette pièce
dans...
est un puzzle, donc je pense que l'image est tout à fait choisie par Annie Hilling, très consciemment,
et,
à mon avis.
Et votre affiche, est-ce une forme de puzzle aussi, cette devanture? Alors, il y a plusieurs affiches. Il y en a où on voit Karine, donc qui est.
Il y en a plusieurs. Celle qui est dans la communication qui était donnée à l'Élysée, c'était une première affiche. Avant, en fait, qu'on ait des photos concrètement de nous, notre travail. Et qui était une recherche plus picturale, mais que j'aime beaucoup, qui représente du coup une façade d'immeuble de nuit.
C'est ce qui est mis sur le site, et sur Facebook également.
Oui.
C'est génial, on comprend pas très bien.
Très
on repère un immeuble, on
j'adore
devine.
Cette image.
Oui, oui.
Un hôtel, m'a dit quelqu'un que je connaissais. Enfin, c'est vrai, on voit que c'est.
Ça peut être un hôtel. Moi, j'aimais bien le.
La nuit.
La nuit.
Il y a des lumières qui sont assez présentes et donc, encore une fois, une forme de puzzle, un peu des formes rectangulaires qui se.
Il y a un côté puzzle et surtout, il y a le côté la nuit. Moi, je sais que avant, j'habitais dans un immeuble et j'avais d'autres immeubles en face et que j'aimais bien regarder la nuit ce qui se passait chez mes voisins. Mmh. On voyait pas grand chose, mais je pouvais m'imaginer plein de choses. Alors que des fois, on les voit juste passer, se faire un.
Oui, et puis il y a cette histoire de chaque pièce a son ambiance.
Voilà.
Chaque fenêtre est un monde.
Est un monde, ouais.
Un monde grâce. Et donc, grâce à Annie Hilling, c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure, Chloé, on peut entrer dans cette pensée de ces personnages.
Pensée, oui.
Alors que là, je n'arrive toujours pas à savoir, Chloé, ce que vous pensez derrière votre micro. Et là, c'est
et
bien.
Et en même temps, même dans la pièce, on peut entrer dans la pensée de chaque personnage. Mais en rentrant dans ces pensées-là, on se rend compte aussi de à quel point ils projettent des choses qui sont totalement fausses sur les autres. On parlait tout à l'heure de Eugène Tender et Karine Schlotter, le moment où ils se rencontrent, cette scène qu'on voit deux fois. Jérôme disait tout à l'heure qu'il ne voit pas du tout la même chose.
Elle fredonne quelque chose, est-il convaincu?
Elle fredonne quelque chose.
Oui, mais ceci dit, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Il voit qu'elle ne va pas très bien, quand même.
Il voit qu'elle ne va pas très bien, mais il se plante complètement sur pourquoi.
Ouais,
finalement.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi et beau dans ce texte, et c'est le challenge pour nous tous les soirs de faire entendre plus quelque part, enfin de mettre en lumière plus une pensée intérieure, encore une fois, qui appartient à chacun dans la vie. On sait jamais à quoi les autres en face de nous pensent, et de mettre en exergue plus cette pensée-là et de mettre en arrière-plan un peu la scène qui se joue. Par exemple, là je parle face à vous, et voilà, bah là je monologue, je parle, mais c'est peut-être pas si important ce que je dis là dans le contenu, et ce qui est plus important c'est peut-être de voir vos six yeux qui me regardent en disant mais de quoi il parle, est-ce qu'il est clair, est-ce que... Et on essaye de faire, c'est vraiment un challenge parce que c'est à inventer tous les soirs, c'est bête de dire ça, mais c'est à inventer tous les soirs, c'est à trouver tous les soirs pour nous.
Est-ce que c'est Karine qui donne un peu le là quand elle commence avec son monologue?
Tout à fait,
oui,
bien sûr.
Bah oui, ça lance en fait. C'est sûr qu'il y a. On sent bien que. En plus, le code d'adresse publique, il est délicat. Et on sent bien qu'il y a quelque chose à ouvrir dès le départ. Et elle est seule à tenir ça et à donner le petit code clin d'œil de tout va bien se passer. On en a pour une heure et demie tous ensemble. Et chacun va prendre la parole tranquillement les uns après les autres. Mais voilà, enfin, oui, c'est elle qui lance.
Écoutons peut-être une voix de femme pour faire un peu de pause. Ce ne sera pas Karine, non, c'est Blondie de ce tube quand même. Mais des années quoi.
Tatel Donis qui incarne Karine Schlotter sera très contente de voir qu'on la compare à Blondie.
Art of Glass, puis il nous restera encore à peu près une petite dizaine de minutes pour continuer à parler de ce texte ou peut-être de la suite. Mais moi, il me semble qu'il y a encore des choses à dire. Là, je pensais à la folie. Vous parliez tout à l'heure d'obstacles, Chloé. Est-ce que chacun n'a pas, peut-être d'ailleurs en plus, comme nous tous, n'a pas une part de folie en lui, une part, vous disiez aussi Valentin, de malinterprétation, enfin du moins de mauvaise compréhension des autres. Bref. Heart of Glass, Blondie, et puis nous continuons encore 10 minutes sur Spectaculaire. C'est avec l'autorisation de Valentin que, voilà, que la fin de ce morceau il reste encore quoi, encore une vingtaine de secondes. Vous indiquez clin d'œil plus ou moins, c'est ça, à Karine Schlotter. Ça y est, j'ai réussi bien.
C'est bon. Ça.
Qui est le personnage qui ouvre la pièce Mon cœur si jeune, si fou de Anya Ealing au théâtre L'Élysée, du 19 mardi hier jusqu'au 22 décembre à 19h30. Une pièce, Karine Schlotter d'ailleurs, qui ouvre, elle est. Est-ce que c'est elle la plus folle? Parce qu'il me semble que chacun est un peu fou. Hein. Mon cœur si jeune, si fou. Vous êtes donc des jeunes comédiens, ça c'est dit. Mon cœur, il y aura une affaire de cœur dans cette... Même des affaires de cœur, hein, n'est-ce pas Eugène? Avec Christine, avec Max, oui. et puis vous-même, Valentin, vous-même Christophe, cœur, avec Anna. Et puis aussi, il y a l'organe. Mais pour ce qui est de la folie, ça il faut quand même encore en parler, non?
Pour ce qui est de la folie, je ne sais pas si Karine Schlotter est la plus folle. Je pense qu'ils sont tous... Ils sont tous à peu près au même niveau maintenant.
Karine, mais... aussi, elle a pris quelque chose.
Oui, elle a pris quelque chose.
Elle est un petit peu anesthésiée quand elle ouvre, quand, quand elle commence à parler, elle est un petit peu anesthésie avec ce petit pain.
Après, je ne sais même pas si c'est vraiment de la folie au sens psychanalytique du terme non plus.
Paola qui a été agressée, il y a quand même une folie, puisqu'elle compte les jours, elle compte les mots prononcés.
Elle compte les goulashes qu'elle fait depuis son agression dans son appartement. Et en fait, elle cuisine chaque jour un goulash.
Pour deux.
Toujours pour deux. Et du coup, voilà.
C'est quand même barré.
Mais ça fait partie des. En fait, j'ai l'impression que ça fait partie de la folie contemporaine.
Oui, c'est une sorte de folie douce, finalement.
Mais la folie contemporaine aussi, moi, j'entends bien.
Ouais, les névroses, les tocs, quand on est prostré.
Le fait de compter les marches quand on descend au container, de croiser personne, qu'est-ce que c'est de parler à quelqu'un quand on n'a pas envie de parler. Tout ça, c'est des névroses qui sont presque sociales, en fait, qui sont aussi écrites. Et ça, c'est assez chouette. Enfin, de se dire que, bon, ben voilà, c'est pas. Ils sont pas fous. Ils ont vécu des expériences qui font qu'ils se protègent, en fait.
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont aussi fous que nous, en fait, simplement. mais effectivement, on le disait tout à l'heure, on rentre vraiment à l'intérieur de leur tête, donc on touche vraiment à l'endroit de nos névroses.
Ils sont en réaction, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont en réaction à leur propre névrose, à leur propre. Ça les fait agir, quoi, d'une certaine manière. Agir de manière radicale.
Mais là où, quand même, on peut parler de folie, c'est que le fait d'avoir accès à leurs pensées, qui continuent, ils interprètent, ça ne s'arrête pas. Mmh. On tombe dans quand même une forme de folie.
Mais nos pensées sont folles. Enfin, je veux dire, nos pensées sont moches, nos pensées sont vilaines dans la vie.
Les associations d'idées qu'on peut avoir nous tous les jours, où la pensée qui se creuse, fait qu'à un moment donné, on se dit, oula, je vais trop loin à interpréter une situation, à me dire, qu'est-ce que lui ou elle pense de moi, à interpréter. Et c'est pour ça que c'est une folie douce, mais.
Et puis on trouve les gens moches, on les trouve cons, enfin, je veux dire, on juge beaucoup dans la pensée.
Oui.
Et tout ça, tout de même, il faudrait peut-être le dire. Enfin, moi, je le crois, mais la question doit être. Je pense qu'il faut la poser. Vous éprouvez tout de même du plaisir, non, à vous trouver sur scène tous les soirs pour à l'Élysée. C'est quand même. Il y a un truc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est jouissif? Enfin, je suppose qu'il y a quelque chose, non?
J'ai l'impression que c'est un plaisir qui se gagne. C'est pas un plaisir dans lequel on entre de plein pied. En règle générale, au théâtre, c'est pas un plaisir qui est acquis et dans lequel on rentre dès la première seconde sur le plateau. Mmh. C'est vraiment un plaisir qui se gagne petit à petit, puisqu'on écrit tout, on invente tout en live.
Mmh. Ouais.
Donc c'est très particulier quand même.
Je dirais même ni dès la première semaine de jeu. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc. Non mais moi je sais que de soir en soir, ça me chauffe de plus en plus de raconter Paula. Enfin, cet épisode, par exemple, ça me chauffe à fond, quoi. Mais ça se trouve, quoi, tout ça. Ça se réveille, il y a quelque chose, on se l'est dit aussi, de très collectif, même si c'est des monologues qui se suivent. Il faut qu'on trouve la manière dont, tous ensemble, on arrive à raconter la vie de cet immeuble, en fait.
Mais de soir en soir aussi.
C'est excitant.
Ouais, c'est très excitant de redécouvrir le soir après soir, et vraiment, c'est ce qui se passe pour nous, j'ai l'impression. C'est de redécouvrir ce texte et de réentendre des petites phrases comme celles que vous venez de dire de Karine au début sur les bois, les vers dans le bois, où il y a une phrase de Paula qui dit que sa main reste intouchée quand elle se présente à Miroslav. Enfin, il y a de savoir qu'il y a certaines phrases qui reviennent chaque soir d'Anya Ealing, et d'en entendre d'autres pour nous-mêmes de l'intérieur, même si c'est nos phrases à nous. C'est on se dit, ce texte est de plus en plus barré, en fait. Moi, je me dis vraiment, c'est faudrait en faire un film, il faudrait le jouer plusieurs fois,
il faut faire quelque chose.
Valentin,
là, c'est à vous, non?
Faire un film.
non, mais disons-vous peut-être d'entrer en relation. Enfin bref, moi j'avais une autre question. La scénographie, il faut quand même évoquer ça aussi, non? Les décors, c'est assez intéressant. Il y a tout un paquet d'objets, un sac poubelle avec lequel vous exécutez de magnifiques arabesques, Chloé, enfin Paola. Il y a aussi toutes ces petites bouteilles d'eau. Il y a encore la table avec les chaises. Il y a le colis. Il y en a combien d'ailleurs? Il y en a deux ou trois, je crois.
Il y en a deux, des colis.
Il y a deux colis.
Deux colis différents.
La veste.
Et puis
la photo. Nous sommes en fin d'émission, 15h. auditeurs, Blues et Canu, Pascal n'est pas encore là, donc je vous propose, on va dépasser là, avec cette première demi-heure qui a été un peu bousculée. De toute façon, cela est tout à fait normal et compréhensible par les événements de samedi dernier concernant l'émission Berbère. Donc, on va peut-être aller 2-3 minutes là qui nous a manqué tout à l'heure. Là, les auditeurs, on leur a fait entendre deux fois le It's All Over Now. Donc, Eugène, cette photo, Christine.
Oui. Non,
maintenant que nous sommes en fin d'émission, ça y est, 15h à sonner à la pendule de Radio Canu. Alors, c'est qui cette Christine? Il y a quelque chose, non? Enfin, il me semble que vous avez dit tout à l'heure, Christine, il faut.
Il faut venir
au théâtre.
Il faut venir pour la voir. Mais après, pour moi, il y a quelque chose. Enfin, pour moi, pour nous, dans le spectacle, et pour moi, il y a quelque chose entre elle et moi, mais plus on n'essaye pas forcément je cherche pas forcément à expliquer quelle est la nature de cette relation. Le texte suffit à lui-même, et puis après je laisse cette partie-là, et on laisse beaucoup de parties de compréhension de ce qu'on fait, du texte, etc., pour les spectateurs. On laisse les spectateurs interpréter ce qu'ils voient du plateau. On essaye, en tout cas.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Elle est scotchée sur un porte-manteau, non?
Elle est scotchée sur un porte-manteau.
Après, voilà. Valentin, tu peux peut-être parler de ce choix de scénographie, d'objets un petit peu bric-et-broc, et puis
un bonnet pour Miroslav, qui incarne Anna aussi un petit peu.
Oui, ça, après on est plusieurs à incarner plusieurs rôles, on va dire, différents. Après, sur la scénographie, qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, il y a un peu un côté briquet de broc. Il y a beaucoup d'accessoires, de petits accessoires qui viennent s'accumuler comme ça sur la scène. Effectivement,
et puis il y a la présence du sable aussi.
Il y a le sable aussi.
Le temps qui passe, et puis aussi cette matière, c'est hypnotique. Ouais. Hypnotique. Quand vous versez, c'est vous qui le faites, je crois, Christophe, non? Enfin, Valentin, c'est vous qui versez une tasse de sable.
Oui, je verse une tasse de sable.
Et c'est long. Enfin, ça ne dure que quelques secondes, mais ça dure. Et c'est, j'étais au premier rang. Il y a quelque chose qui se crée. Enfin, du moins, on voit ce sable.
Il y a effectivement la présence de sable sur scène.
Ah ben, c'est Eugène qui s'en mange aussi du sable.
Eugène en prend beaucoup dans la tête.
Avec un masque natation.
Ouais, et du coup, ce sable qui s'accumule petit à petit. Comme de la même manière d'ailleurs que tous les autres accessoires, en fait, moi j'ai un peu essayé de travailler comme ça. Le sable, c'est aussi c'est un espèce d'élément. D'ailleurs, on s'en rend bien compte sur le plateau. Après, quand on doit le nettoyer, c'est que c'est quelque chose qui s'infiltre partout, qui est chiant en vrai.
Même dans les vêtements, même dans les cheveux.
Oui, voilà, même dans les cheveux.
Est-ce que ce serait l'écriture de Anya Ealing qui serait un peu comme ça, une écriture qui s'insinue partout, qui s'insère partout?
Il y a quelque chose de ça.
Qui pose problème.
Moi, ça me parlait en tout cas.
Des grains de sable. Elle introduit plein de grains de sable.
Ouais, et puis on en retrouve partout, quoi.
Oui.
On en retrouve partout.
Moi, ça me parlait en tout cas qui est cet élément comme ça qui arrive sur le plateau, et puisque justement on a parlé de rentrer dans la tête de ces gens, c'est pour moi il y a toutes ces choses là qui s'infiltrent partout, c'est tout est briqué, rien ne tient vraiment. Effectivement, le portrait de Christine, il est scotché sur un porte-manteau,
il arrête pas de tomber
d'ailleurs. On a cassé le cadre plusieurs fois.
Dans le texte original, voilà. La photo,
il est bien dit, oui, je l'ai sous les yeux.
C'est sa photo, jamais encadrée.
Une tomate s'échappe de mon sandwich, nous faisons tous les deux semblant de ne pas voir que tu as été éclaboussé depuis 4 ans là, ta photo jamais encadrée. Ah oui, à nouveau, c'est vrai, il n'y a pas de point. C'était peut-être que dans la partie, là nous sommes dans l'acte 2, disons dans le deuxième monologue. Donc depuis 4 ans, ta photo jamais encadrée est collée au-dessus de l'étagère à épices. Ça vous chatouille les narines, c'est vrai. Christine, ton regard, oh, je le connais ce regard. Ah non, c'est un texte. Aurions-nous fini d'en parler? Il est 15h03, mais je crois que Blues des Canuts n'est toujours pas là, alors on peut encore continuer, ou on pourra peut-être mettre un terme.
Il va falloir nous chasser un moment.
Comment vous êtes tombé dessus, vous, Valentin, sur
comment
ce texte?
Comment je suis tombé dessus?
C'est génial,
complètement par hasard finalement.
Ah bah il faut bénir le hasard.
Il faut bénir le hasard. Enfin, c'est pas tant un hasard que ça, mais j'étais avec des amis, on avait décidé de...
Des Vendéens encore, oui.
Des Nantais.
Ah bah des Nantais, encore mieux.
on avait décidé tout simplement de se lire des pièces les uns les autres, de se faire découvrir des choses. Et un après-midi, j'étais du coup chez une amie, chez Mathilde.
Mathilde Binot.
Mathilde. Mais qui est arrivée tout simplement, je ne sais même plus exactement, en nous disant, je crois qu'elle avait trouver ça à la médiathèque. Elle était tombée dessus, elle aimait bien le titre. Voilà, enfin, je ne sais pas exactement pourquoi. Et elle nous a proposé de le lire. Et du coup, on a lu ça, on était 3 ou 4.
Il y a un autre texte d'Annie Elling qui est un peu plus connu que
Moi. Étoile, c'est ça? Non, encore un autre, c'est vrai. Vous m'avez dit
Tristesse, Tristesse Animal Noir.
Il a été monté, vous m'avez donné son nom. J'ai déjà...
Il a été monté notamment par Julien Gosselin et Stanislas Nordet.
Voilà, Nordet, c'est ce que vous m'avez dit. Oui.
Du coup, il est un peu plus connu, ce texte-là.
Ah oui, c'est ça que je pensais. Ce texte n'a jamais été joué en France.
Oui, c'est une première. Oui.
Donc c'est une première française. Et ça, faut quand même le dire.
Mm-mm. Auditeur, Pascal est là, donc c'est très bien qu'on ait pu dire cela. Il est temps, en cette fin d'émission, donc, de faire résonner le générique. Voilà, quand même, Valentin, on va nous faire sortir. C'est l'émission suivante, le Blues des Canuts de Pascal. Relâche, peut-être pour le Blues des Canuts aussi, mais en tout cas, relâche pour Spectaculaire pendant 2 semaines. Donc, les annonces que nous pourrons faire, ben, suivez-les sur le blog. Il y a encore l'exposition Let Way qui se tient à la bibliothèque du 1er arrondissement. Nous recevions Martial Coudrette il y a de cela 2 ou 3 émissions. Il y a aussi tout un tas de spectacles de fin d'année. Arturo Brachetti au Célestin. Il y a aussi Broadway à l'Auditorium. La Cenerentola qui se tient à l'Opéra. Et puis aussi, ici au Théâtre de la Croix-Rousse, avant que nous recevions Laurent Fréchuret le 10 janvier prochain, mercredi 10 janvier, émission prévue 2018 pour la pièce Sainte. Il sera présent avec peut-être une comédienne, puisqu'elle est seule sur scène. Donc d'ici là, il y a quelques petits spectacles au Théâtre de la Croix-Rousse qui valent, je crois, le détour. Un cabaret et puis le spectacle de clown Trio. Ils sont 3 clowns, alors il y a 3 i à Trio, voilà. Mais en attendant, auditeurs, parce que ces spectacles dont je parle ont déjà commencé et puis ont lieu encore quelques jours, mais l'Elysée, ça se encore ce soir 19h30, demain 19h30, vendredi, et ce sera terminé.
Et après, ce sera fini. Voilà.
Il faut que ça devienne un film ou quelque chose, Valentin, c'est nécessaire. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Valentin. Merci Jérôme.
Merci
Christophe. Merci Eugène. Eugen. Et merci Paola. Danke, Alain. C'était vraiment très intéressant. Je vais peut-être y retourner d'ici vendredi. Auditeur, portez-vous bien. Écoutez le Blues des Canuts qui vient tout de suite. Et puis, méga combi tout à l'heure à 19h, à 18h, Canu Info, etc. Jean Bredouille. Restez à l'écoute du programme de Radio Canu. Et puis, on se retrouve en 2018. Bye, ciao tout le monde.
Au revoir.